Orléans Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Un seul sujet ce samedi, à la veille des célébrations du Noël chrétien, il nous a semblé intéressant de confronter les trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, et essayer de comprendre ce qui les rapproche et ce qui les différencie. Pour cela, nous avons invité le politologue et essayiste David Vauclair, auteur d'un livre sur le sujet, préfacé par le spécialiste des religions, Odon Vallet. Sphère publique, sphère privée et questions d'actualité sont au programme de cet entretien qui nous rappelle que les trois rituels religieux ont une source d'inspiration commune, bien que diversement interprétée, Abraham.
Orléans Hebdo sur RFI.
David Vauclair, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste en géopolitique et histoire contemporaine, professeur à l'ILERI, l'École des relations internationales à Paris. Vous publiez aux éditions Erol, judaïsme, christianisme, islam, points communs et divergences. Alors en quoi était-il nécessaire de se livrer à cette étude comparative ?
Aujourd'hui, islamisme, islam et toute forme de religion liée donc à la troisième grande religion abrahamique tendent à faire un certain nombre de débats, à faire naître donc des disputes et autres. Donc là-dessus, c'était intéressant d'en parler. Et puis pour le christianisme et le judaïsme, eh bien, même si elles sont mêlées en Europe depuis assez longtemps, on parle aussi beaucoup à la fois d'écuménisme, de différences, et ça semblait intéressant de revenir sur l'ensemble des trois religions pour réussir à voir ce qu'elles avaient en commun et comment nous avons fait depuis si longtemps pour vivre côte à côte avec justement nos différences et dans le respect de celles-ci.
Alors vous écrivez que ces trois religions monothéistes cohabitent ou s'opposent dans une certaine méconnaissance mutuelle. Comment expliquer cette relative indifférence ?
Eh bien, peut-être pas forcément une indifférence, mais tout simplement l'incompréhension que l'autre ne mette pas derrière chaque mot ou chaque personnage important les mêmes histoires, les mêmes anecdotes ou les mêmes concepts. Donc à partir de là, quand on parle notamment d'Abraham, qui est peut-être le grand patriarche commun des trois religions, on va avoir tendance, si on regarde rapidement le personnage, à y voir le même pour les trois religions. Or, dès qu'on commence à l'étudier d'un peu plus près, on se rend compte qu'il aura une signification différente dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam, où chacun retirera de la vie riche de ce personnage ce qui lui apparaît le plus pertinent pour sa communauté.
Oui, Abraham qui est un personnage très important, vous y consacrez un chapitre très large dans votre livre. D'ailleurs, votre livre, disons-le, se structure en quatre parties. Mm-hmm. Et dans la première, donc, on y apprend qu'Abraham, c'est une figure tutélaire, mais qui est assez différente d'une religion à l'autre.
Tout à fait. Donc Abraham, c'est le véritable père du monothéisme, puisque c'est le premier qui va revendiquer ce monothéisme par rapport aux autres. Les patriarches plus anciens vont croire en un seul Dieu, mais ne vont pas forcément se battre ou bien annoncer qu'il est unique. Abraham, depuis qu'il est tout jeune, va au contraire revendiquer ce monothéisme, et c'est en cela qu'il apparaît comme véritablement important, comme une forme de renaissance depuis Adam par rapport au message divin, que ce soit à ce niveau-là dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Mais après, son histoire va être interprétée selon les besoins, les nécessités de chacune des communautés. Donc d'une manière très ethnique, si vous voulez, au niveau du judaïsme, comme le père de tous les Hébreux, d'une manière donc, disons, historique et symbolique au niveau des chrétiens, comme à partir de ce moment-là, celui qui va préfigurer le Christ. Et puis, au niveau des musulmans, on se retrouvera avec celui qui est véritablement le seul monothéiste et qui, en ce sens, n'est pas ni juif ni chrétien, mais celui qui va donc être antérieur à Mahomet. Et donc, c'est le prophète Mahomet qui va, si vous voulez, reprendre et compléter le message d'Abraham. Et c'est d'ailleurs le prophète en dehors de Mahomet dont on parlera le plus à l'intérieur du Coran.
Est-ce que ça veut dire que chacune des religions, finalement, retournée vers Abraham, ça lui permet d'effacer les précédentes religions ?
Alors, pas forcément de les effacer, mais peut-être de décider de quelle priorité sera mise en avant. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, en tout cas c'est ça qui m'intéresse dans mon métier, c'est l'idée de savoir quelle est la priorité qu'on va mettre avant les autres. Puisque, en tant que telles, les religions vont, à l'instar des systèmes politiques, essayer d'organiser ce qui va être important de ce qu'il est moins. Et à partir de là, les symboles, et Abraham en est un, vont être utilisés pour permettre de soutenir un point de vue par rapport à un autre et essayer de mettre en avant un dogme par rapport à un autre.
Alors, la seconde partie du livre est consacrée à la sphère privée. Dans la sphère privée, il est question notamment de la place de la femme et aussi des questions sexuelles. Alors, la place de la femme, par exemple, égale de l'homme ou partenaire pourtant, un point commun, c'est qu'elle n'a jamais le premier rôle.
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous regardez les textes, vous pouvez trouver à l'intérieur des textes juifs, chrétiens et musulmans, la possibilité pour la femme d'être traitée à l'égal de l'homme. Cela étant dit, derrière, la religion n'est pas uniquement qu'un texte, c'est son interprétation, et derrière, c'est son adaptation à une société. Or, dans son adaptation à une société, c'est extrêmement récent que l'on donne une place qui soit égale à la femme, et donc à partir de ce moment-là, même si on prend uniquement le cadre français, c'est extrêmement récent. Pensez au droit de vote qui, donc,
1946.
Et pensez derrière aux grands mouvements féministes en France qui vont avoir lieu plutôt dans les années 70. Le fait est que vous allez avoir quelque chose d'extrêmement récent. Auparavant, on va plutôt considérer que la femme a une importance, mais une importance dans la sphère privée et que la sphère publique est réservée à l'homme. Et ça serait malhonnête de cacher que jusqu'au XXe siècle, la place de la femme était considérée dans toutes les sociétés qui utilisaient soit judaïsme, soit christianisme, soit islam, comme inférieure à l'homme, voire parfois considérée comme bien meuble, ce qui peut être vexant.
Et le sexe?
Alors, le sexe est très important dans les religions. La religion qui est la plus prude ou qui a le plus de difficultés avec le sexe, c'est la religion chrétienne. Mais tant dans le judaïsme que dans l'islam, la question sexuelle est fondamentale parce que la famille est au cœur de toutes ces religions. Et donc, en conséquence, comment avoir des enfants? Ben, tout simplement en faisant rencontrer un homme et une femme, ce qui explique que l'acte sexuel est considéré comme sacré ou positif dans la plupart des religions. Bon, derrière, il y a la question d'homosexualité, et là, effectivement, si on en croit les textes, que ce soit donc dans la Torah ou la Bible, si vous préférez, ou dans le Coran, la question homosexuelle est rejetée, est considérée comme une abomination si on cite le texte. Ce qui explique les transformations très importantes qu'on peut voir dans nos sociétés, mais également les résistances, puisqu'après tout, ça fait quand même un certain nombre de milliers d'années que ces religions offrent une boussole à beaucoup de gens.
Alors, vous avez parlé, vous avez abordé la question de la famille. La famille, comment est-elle vue par les trois religions?
Comme fondamental, c'est le cœur de toute communauté. Si vous voulez, si on regarde une communauté, on essaye de comprendre comment est-ce que politiquement, est-ce qu'elle va s'organiser. Eh bien, elle s'organise autour d'un couple qui aura des enfants. À l'intérieur de ce couple, le père de famille est donc la personne responsable. Et donc, bien évidemment, derrière, il est épaulé par la mère. Et puis, les enfants doivent respect au père jusqu'au moment où eux-mêmes deviennent, donc à leur tour, père ou autre. Et d'ailleurs, puisque nous parlons d'Orient, remarquez que régulièrement, encore aujourd'hui, quand on va se promener au Moyen-Orient, on va vous dire que la personne s'appelle Ibn ou Ben, etc., ce qui signifie « fils de ». Et la plupart du temps, les gens que vous rencontrez sont capables de vous exposer leur arbre généalogique sur souvent des dizaines, voire des quinzaines de générations, voire jusqu'au prophète, s'ils ont la chance de faire partie des familles royales, par exemple, du Maroc.
Alors, dans la troisième partie, les questions de la sphère publique, la politique par exemple, c'est peut-être dans ce domaine que les trois religions paraissent les plus dissemblables.
En fait, la religion juive, à l'exception notable d'Israël depuis sa création en 1948, a toujours été une religion qui était une religion minoritaire. Donc à partir de là, la manière de considérer la religion par rapport au pouvoir est différente des religions chrétiennes et des religions musulmanes où la majorité du temps, la communauté chrétienne ou la communauté musulmane était la communauté principale, majoritaire. Ensuite, à l'intérieur de ces religions, vous avez des accommodements qui vont se faire entre ce qui est dit dans la religion et ce qui se fait traditionnellement et au niveau de la communauté. Et on peut voir que à ce niveau-là, c'est toujours la société qui l'emporte sur le religieux. De temps en temps, on va réussir à imposer un dogme particulier, mais la majorité du temps, celui-ci va s'estomper, s'effacer, des accommodements vont se faire entre textes sacrés et puis ensuite donc la capacité de pouvoir vouloir vivre ensemble.
Et l'argent, le fait de faire des affaires, comment les trois religions considèrent-elles ce...
Alors différemment, en fait dans les trois religions, on peut se retrouver avec l'idée qu'une interaction entre personnes est quelque chose de plutôt positif. Après, la question de l'argent est une question qui est complexe au niveau du christianisme, où la plupart du temps c'est plutôt mal vu, et plutôt vu correctement, ou voire même très positivement, entre judaïsme et islam. Cela étant dit, derrière, il y a la question d'usure qui est perçue comme extrêmement négative dans tous les cas. Et puis, il y a également la question de la richesse, c'est-à-dire, une fois qu'on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? Et la question de la générosité, alors là, à ce niveau-là, est à nouveau quelque chose de central, qu'on va retrouver dans les trois religions, c'est-à-dire que ce qui vous est donné, vous êtes en fait, si vous voulez, prêté par Dieu, et c'est à vous de le redistribuer aussi libéralement que possible. Et on aura dans les trois religions donc cette vocation à ce que la personne la meilleure possible, la plus juste possible, soit également la plus généreuse possible.
Et entreprendre, c'est bien ?
Entreprendre est quelque chose qui m'apparaît plus culturel qu'autre chose. Si vous voulez, oui, c'est bien, mais on peut trouver à l'intérieur des trois religions de quoi soutenir et de quoi aller à l'encontre de cette idée d'entreprise. Et vous allez d'ailleurs avoir, par rapport aux sociologues, des idées relativement contradictoires selon les temps et selon la réussite du peuple et qui a une religion particulière. Donc on va pouvoir avoir à un moment des gens qui vont soutenir le fait que il est évident que dans l'islam il n'y a pas la possibilité d'entreprendre, et puis en gros que les gens sont condamnés à un état médiéval, si vous voulez, et puis parallèlement on peut avoir des gens qui vont vous expliquer que c'est n'importe quoi et que on ne trouvera pas ce genre de choses à l'intérieur de la religion, et en conséquence on peut avoir un développement tout aussi important. Et là, ça dépend réellement singulièrement de la période historique, de qui sont finalement les gens les plus importants au niveau régional, au niveau local, régional et international. Souvent d'ailleurs, Max Weber le premier disait que l'esprit du capitalisme se trouvait dans le protestantisme, mais ça, c'est ce qu'il disait dans un premier temps. Après, il disait, il faut pas généraliser, dans le sens où on va pouvoir trouver ce qui a permis au capitalisme de se développer dans, effectivement, la vision protestante du christianisme. Ceci étant, il faut pas faire une égalité protestantisme égale capitalisme, puisque on peut trouver à l'intérieur finalement un mode de fonctionnement qui irait totalement à l'encontre et qui serait tout aussi logique. Et il y a d'ailleurs des mouvements protestants qui auront tendance justement à s'en retirer. Enfin, je sais pas, vous pensez aux Quakers par exemple, et qui vont à ce niveau-là vont démontrer que la richesse de la religion, c'est beaucoup plus la manière dont vont l'interpréter les gens. Et c'est cette question d'interprétation qui est importante.
Orient Hebdo sur RFI. Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Alors, dans la quatrième partie, vous demandez si les religions poussent à la guerre. On serait tenté de répondre oui. Est-ce qu'on a raison ?
On a à la fois tort et raison. On peut trouver donc tout ce qu'on veut dans des grands textes. À la fois, on peut trouver des appels à la raison, et puis on peut trouver aussi des appels à la bataille et des appels à la guerre. La question centrale est de savoir finalement ce que vont en faire la majorité des gens qui font partie de la communauté religieuse. Et quand on regarde les grandes histoires, à la fois légales ou bien les grandes histoires tout simplement culturelles de ces religions, on se rend compte que à l'intérieur des religions, il y a une volonté centrale, en tout cas dans les trois religions dont on parle aujourd'hui, de minimiser la violence des textes et de minimiser justement ces appels à la guerre. On se rend compte que l'ensemble des participants à la religion vont essayer le plus et le mieux possible de diminuer la possibilité d'amoindrir finalement les va-t-en-guerre et au contraire de mettre en avant ce qui permet une vie en commun. Cela étant dit, il est vrai, et ça serait mentir de ne pas le souligner, qu'on peut trouver à l'intérieur des religions également des appels à la guerre. Donc les terroristes, par exemple, qui font des appels à la guerre, le font d'une manière qui, d'une certaine manière, est légitime. On peut trouver, effectivement, à l'intérieur des textes, ce qui va les mener à la violence. Mais tout ce qu'il y a autour, l'intégralité des rites de l'histoire et, finalement, de l'épaisseur de ce qui va faire une communauté religieuse, va à l'encontre de cette idée-là.
Mais autrement dit, le terrorisme, par exemple, ce n'est pas une idée des religions, c'est plutôt une interprétation qui se fait dans des circonstances particulières.
Alors, philosophiquement, on peut se demander si une religion n'est pas de toute façon, par définition, une interprétation. Mais oui, tout à fait, c'est une interprétation. Et c'est une interprétation minoritaire. Une interprétation réelle, hein, cela étant dit, et comme je vous disais, légitime. Mais le fait est qu'elle est très minoritaire et elle sera dénoncée par la quasi-totalité, finalement, des gens qui appartiennent à la religion.
Et il existe même, par exemple, dans l'islam, des fatwas condamnant le terrorisme.
Alors, tout à fait, de manière très très claire, depuis 2002, où vous en avez un certain nombre qui ont été édictés au fil du temps, et qui sont de plus en plus majoritaires. Donc là-dessus, on peut penser notamment récemment au roi du Maroc qui a donc exhorté ses concitoyens à ne pas participer, et même d'ailleurs il a mis tout son poids à la fois de chef d'État mais en même temps de chef religieux, puis il ne faut pas oublier que le roi du Maroc c'est les deux. Et donc à partir de là, vous avez dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient, mais également, parce qu'on a tendance à l'oublier aussi aujourd'hui, le cœur de l'islam c'est l'Asie, et donc en Asie vous avez une multitude de groupements qui ont édicté des fatwas, des ordres indiquant que le terrorisme n'était pas la bonne voie.
Et l'humour? Oui. Dans les religions.
Ah, c'est compliqué, l'humour dans les religions. C'est très difficile puisque l'humour a tendance à casser la sacralité. Quand vous riez, la plupart du temps, vous détruisez ce qu'il peut y avoir de sacré. Donc, la plupart du temps, les religions vont avoir très peu, voire pas du tout d'humour. Et d'ailleurs, si vous lisez le Nouveau Testament, vous remarquerez que Jésus ne rit jamais. Donc, un auteur donc tout imprégné de christianisme qui s'appelait G.K. Chesterton disait que lui voyait un grand sourire intérieur et un rire intérieur dans la vie du Christ. Mais cela étant dit, il ne rit jamais. Et on peut voir que la majorité du temps, les chrétiens, on se souviendra du nom de la rose, ne vont pas percevoir le rire comme quelque chose de foncièrement bon.
Pourtant, le rire est le propre de l'homme.
Le rire est, dit-on, le propre de l'homme. Et cela étant dit, après, l'idée est de savoir comment est-ce qu'on rit. Et on peut voir que dans les religions, la plaisanterie juste, pour citer les musulmans, est celle qui apparaît comme la plus acceptable. Mahomet, dit-on, était le plus rieur des hommes. Donc, on trouvera à l'intérieur de cela cette idée qu'il faut rire avec, pas rire contre. Donc, le rire de moquerie n'est pas considéré comme bon dans toutes les religions abrahamiques. En revanche, un rire finalement de partage serait considéré comme positif. Mais c'est effectivement là un des points sur lequel il peut y avoir une accroche et un débat.
Alors finalement, David Vauclair, est-ce que nous n'aurions pas intérêt à mieux connaître les religions, même si, et peut-être surtout, si nous sommes athées ?
Eh bien, c'est mon avis. D'une part, je pense que culturellement, les religions ont modelé notre monde jusqu'à aujourd'hui, donc les ignorer, c'est finalement se couvrir les yeux de manière un peu niaise. Et puis, parallèlement aussi, parce que si vous voulez discuter, connaître les religions, comprendre la manière dont les gens vont concevoir le monde, vous aidera à justement débattre et même faire avancer vos idées, que celles-ci soient effectivement donc agnostiques, athées ou même d'ailleurs opposées complètement à une religion en particulier. Il vaut mieux finalement savoir de quoi on parle.
Merci David Vauclair, professeur et spécialiste en géopolitique et en histoire contemporaine. Je renvoie à votre livre « Judaïsme, christianisme, islam, points communs et divergences » publié aux éditions Erol.
Merci beaucoup.
À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter ce nouveau numéro d'Orient Hebdo sur notre page Facebook ou le podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. On se retrouve samedi prochain à la même heure. Tout de suite, un nouveau journal d'information. En sol.